les années 80 qu'on va encore évoquer, une Barbara aussi, une Nathalie aussi, avec Emmanuel Roquette. Donc on parle littérature, on parle d'un petit livre que nous avons lu tous les deux, Emmanuel.
Tout à fait, pour bien
Souvent
faire les
quand,
choses.
oui, souvent quand il est petit, j'ai plus de facilité. C'est quand ils sont gros que je souffre. Mais là, c'est Éric Chauvier que vous nous présentez avec La Petite Ville aux éditions Amsterdam, dans une collection dont vous me disiez qu'elle est toute nouvelle.
Tout à fait, elle vient d'ouvrir, il vient d'ouvrir le bal dans cette collection qui s'appelle L'Ordinaire du Capital, effectivement, avec un livre de Éric Chauvier qui s'appelle La Petite Ville, et un deuxième livre qui est paru concomitamment, qui s'appelle Les Briques Rouges de Quentin Ravelli, qui est assez bien aussi, mais un peu moins bien que celui dont on va parler, qui est un petit livre, mais un grand petit livre.
Une vraie réussite en tout cas, un objet hybride une fois de plus, puisque bon, c'est pas vraiment de la littérature, mais c'en est quand même, étant donné la qualité de l'écriture de l'auteur. C'est une enquête, on peut le dire.
C'est un objet mixte, hein. C'est vraiment. Alors, Éric Chauvier, on le connaissait déjà, il avait écrit pas mal de livres, de petits livres en général d'ailleurs, majoritairement, d'ailleurs même je me demande si ce n'était pas tous ces livres qui avaient été publiés aux éditions Alia,
En tout cas, j'en possède deux qui chez
qui sont
moi,
chez
qui sont
Alia.
chez Alia.
Je pense qu'il y en a, il était assez fidèle à cet éditeur-là. Il avait notamment écrit Somaland, il avait écrit Anthropologie, qui est un livre assez important dans l'histoire de l'anthropologie française actuelle.
C'était son premier livre, je
C'était
pense.
son premier, je ne suis pas sûr que c'était son premier, maintenant j'ai des doutes, je les ai notés dans le désordre, donc je ne suis pas sûr de l'ordre chronologique
Si,
en tout
je
cas.
pense.
Et puis il y avait Les mots sans les choses, qui était pour moi un livre très très important aussi. Et puis alors il y avait Que du bonheur, qui était un tout petit livre aussi. Mais alors c'est vrai que vous parlez de littérature, mais Éric Chauvier reste un anthropologue. Il est un anthropologue qui effectivement, et on en parlera avec les techniques de la littérature réinventent l'anthropologie, mais ce qu'il fait, c'est vraiment de l'anthropologie. Il est né en 1971, il est prof d'anthropologie d'ailleurs à Bordeaux, et il dirige lui-même une collection d'anthropologie chez un éditeur qui s'appelle le Bordelot. Et il est né à Saint-Yrieu-la-Perche, ce qui nous amène directement dans le livre, puisque dans ce livre, La Petite Ville, eh bien, il va s'intéresser à la petite ville de Saint-Yrieu-la-Perche, que vous ne connaissiez pas, j'imagine.
Mais il se fait que je vis avec quelqu'un qui la connaît un peu.
Incroyable. Le monde est petit,
C'est un
hein. C'est
accident,
improbable.
c'est un accident tout à fait improbable. Et donc j'ai pu vérifier un certain nombre de choses
Ah,
quand
carrément. Vous
même.
avez fait votre travail jusqu'au bout, quoi. Donc oui, enfin, Saint-Yrieu-la-Perche, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était mon cas, c'est une toute petite ville. Enfin, c'est une toute petite ville. Non, c'est ce qu'on appelle une petite ville, et qu'il va redéfinir quelque part dans son livre, qui se situe à 40 km de Limoges, une autre grande ville, enfin une grande ville entre guillemets. Et qui avait, j'ai été vérifier les chiffres sur Wikipédia, hein, donc j'ai pas été bien loin, qui avait 6234 habitants en 1793 et qui en possédait 6848 en 2014. Donc pas beaucoup d'évolution, ni à la hausse, ni à la baisse, et dont le nom des habitants sont les Arédiens. Alors, quel est le sujet du livre? Eh ben, le sujet du livre, c'est cette petite ville, c'est tout. Donc c'est un véritable sujet anthropologique. Son objectif est quelque part d'explorer la déshérence, d'observer plutôt la déshérence d'une petite ville de province française. Ce qu'on peut d'ailleurs presque, on peut quasiment faire des copier-coller avec des petites villes belges. Alors c'est quoi finalement le constat que l'on fait? C'est le constat qu'on peut un peu tous faire en passant dans ces petites villes de province. C'est le vieillissement de la population. Donc une population jeune qui s'en va et celle qui reste, mais qui forcément vieillit, pas toujours très bien d'ailleurs, hein, dans des conditions qui sont souvent un peu précaires. C'est une désertification des centres-villes, ce qu'on peut voir dans les petites villes. Il suffit d'aller à Nivelles, à Jodogne par exemple,
Pourquoi ces deux-là?
voilà, ou dans une autre petite ville qui se rêve plus grande comme Mons par exemple. On voit également l'établissement à la périphérie de ces petites villes de complexes commerciaux, de complexes industriels qui sont de plus en plus finalement monopolistiques aussi. Un monopole, et Éric Chauvier nous le détaille, qui est quand même assez organisé à la base, et qui n'est pas organisé dans la petite ville, mais dans les organes de direction de ces monopoles. On voit également un étiolement, c'est le moins qu'on puisse dire, du commerce de proximité, et également des relations de proximité que l'on peut avoir, alors qu'on avait des commerces, des petites épiceries dans lesquelles tout le monde passait au centre-ville, eh ben, on a ces commerces qui disparaissent ou qui s'installent en dehors et puis qui sont repris par des grands groupes. Et à la place, dans le centre-ville, il reste eh bien, des marchands de sonotone, par exemple. C'est assez, assez improbable. Ou des marchands d'assurance. C'est assez fascinant.
Des vendeurs d'assurance, effectivement. Et il y a aussi un aspect qui est fort développé, c'est et qui est un aspect procède de la politique européenne au sens le plus large, c'est la désindustrialisation.
Ah oui, clairement, ça c'est... Alors c'est une désindustrialisation qui s'est fait de manière extrêmement insidieuse en fait. Donc il y a donc ces complexes industriels qui migrent en périphérie et puis qui sont petit à petit détricotés en fait. Et tout ça, finalement, il y a plein de choses qui pèsent sur la petite ville, mais qui finalement ne sont pas du tout maîtrisées par elle. Et le fait que cela pèse sur l'extérieur, eh bien, ça la rend, complètement incapable de s'organiser face à des choses sur lesquelles elle n'a plus aucune mainmise, en fait.
Alors, nos auditeurs doivent se dire, bah oui, c'est une enquête anthropologique sur une petite ville, quoi. Hein ? Bon.
Alors c'est
plus... qu'est-ce qu'on s'en fout de...
Oui, c'est plus
de s'attirer la perche, quoi.
Ouais, c'est bien plus que ça en fait, parce que au travers de ce constat, et je dirais on est presque que dans le constat dans ce cadre, dans le cadre de ce livre, à part peut-être ce dont j'ai parlé à propos des monopoles, où là il va l'enrichir, je veux dire, d'analyses dont on sent qu'elles sont extérieures, qu'elles ont été faites au préalable, etc., sur les monopoles, etc. Le reste, on est vraiment dans un constat qui est amené d'une manière très particulière, j'en parlerai, mais un constat qui est brut de décoffrage, on a envie de dire. Mais rien qu'avec ce constat, on a l'impression non seulement d'avoir une lecture extrêmement précise de Saint-Thierry-la-Perche, dont personnellement je me fous comme d'un peu première chemise, ça m'est égal, mais on a un constat de toute petite ville de province. Et plus fort que cela, et c'est ça qui, moi, m'a particulièrement touché, m'a particulièrement marqué, c'est qu'on a une lecture, non pas de la petite ville, mais du monde dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'avec un petit point de détail, une petite ville précisément nommée, précisément observée, précisément dont on a précisément interviewé les membres, Saint-Thierry-la-Perche, eh bien, hop, on fait un focus sur ce que l'on appelle la petite ville de province, et de cela, on fait un focus vers le monde dans lequel on vit et les mécanismes qui jouent, qui sont quelque part une forme, oui, de réalisation presque parfaite, une forme d'aboutissement d'un capitalisme complètement dévié, ou déviant.
Ça dépend. L'ordinaire du capital.
L'ordinaire du capital.
Je me plais à penser que on a d'abord lu le petit livre d'Éric Chauvier avant de titrer la collection. Je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être quelque chose, parce que c'est quand même le premier livre qui sort dans cette collection, et c'est tellement le projet du livre de décrire l'ordinaire du capital, et là tout à coup tout s'éclaire.
Oui, c'est brillant. Et enfin, je ne sais pas si c'est après avoir lu le livre, parce que le deuxième s'intéresse aux briques en fait, l'objet, la brique, et à travers cet objet-là, la brique, eh bien, on va détailler les mécanismes. Alors là, des mécanismes de mondialisation, etc., des mécanismes qui sont plus strictement économiques et peut-être un peu moins à voir dans le temps long. Ici, l'histoire de la petite ville, qui est vraiment une histoire du temps long, du temps du capital, on va dire, ou du capitalisme, mais une histoire plutôt du temps long. Mais oui, c'est des choses à partir d'un petit objet, en fait, entre guillemets, une ville de province qu'on connaît tous. On est tous passés en allant en vacances dans une petite ville, dans ces zonings immenses qui enserrent la ville et finalement où toute la vie de la ville se délocalise. Pardon. Et on a tous utilisé une brique. Et ben, rien qu'avec ces deux petits objets-là, on crée une analyse qui est beaucoup plus vaste. Mais ce qui est le plus fascinant, et c'est ce grâce à quoi Éric Chauvier parvient à la finesse de cette analyse, c'est sa forme, en fait. D'habitude, on a, dans le travail d'anthropologie ou dans le travail des sciences sociales de manière plus large, on a finalement un scientifique, Même si c'est des sciences humaines, ça reste un scientifique, rappelons-le, qui va...
En tout cas, il y a une démarche, quoi. C'est cadré, quoi.
C'est très cadré.
On ne peut pas faire n'importe quoi.
Et c'est avec un modèle théorique qui est très précis, très souvent. C'est-à-dire que le scientifique va aller à la campagne s'il veut analyser, par exemple, le monde agricole. Il va aller dans une industrie si c'est le monde industriel qui l'intéresse. Mais il va y aller toujours avec un certain modèle théorique qu'il aura été puisé, je ne sais pas, chez un de ses précurseurs, chez un de ses collègues, que sais-je, peu importe. Et puis, il va, à partir quelque part du listing que lui donne ce modèle théorique, analyser la réalité qu'il voit en face. Et les interviews qu'il réalisera, puisqu'en sciences sociales, c'est le contact avec les gens qui est important, et donc on va réaliser plein d'interviews. Les interviews vont finalement plus servir qu'à illustrer le modèle théorique avec lequel le scientifique se proposait d'analyser la réalité qu'il mettait en question. Ce que montre Éric Chauvier, alors ici il le montre en acte, il l'a entre guillemets, et c'est assez marrant d'en parler, il l'a entre guillemets théorisé auparavant, c'est que le modèle théorique ne fonctionne pas en fait. Que le modèle théorique, s'il n'est considéré que comme quelque chose à placer en surplomb, avec un filtre, comme une sorte de filtre qu'on plaquerait sur le réel, que le modèle théorique va finir par conformer cette réalité au modèle qu'il se proposait avec le modèle qu'il se proposait de l'analyser. Et donc il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors Éric Chauvier quelque part a lui-même presque établi une forme de modèle théorique quelque part pour arriver à éviter ça. Et c'est un c'est quelque part une forme d'analyse qu'il rendrait lui-même déjà présent à son sujet. C'est-à-dire que Éric Chauvier, dans ce livre La Petite Ville, c'est sa petite ville, il y a grandi, il y est né, il y a grandi, il y a aimé.
Et il a fui. À
17 ans. Et donc, il y a une sorte de retour à cela.
Oui, c'est y revenir. Hein.
C'est y revenir, clairement, mais plutôt qu'en tant que adepte des sciences sociales, entre guillemets, normal, de se faire en détachement de ça, ou plutôt même d'avertir le lecteur en disant « voilà, j'aurais peut-être l'un ou l'autre problème d'objectivité, etc. » Non, pas du tout, il s'en fout, c'est pas ça qui l'intéresse. Le fait que lui-même soit et grandit dans cette ville, puis en soit parti, c'est déjà quelque chose qui est pertinent dans l'analyse générale de la petite ville. Et donc, plutôt que de le cacher ou plutôt de s'en défendre, eh bien non, soi-même, donc l'anthropologue lui-même devient un outil d'analyse tout à fait pertinent de son sujet. Et ça, c'est quelque chose d'assez neuf dans l'anthropologie.
Et il se met vraiment en scène.
Complètement. C'est-à-dire que dès le début, eh bien, il va croiser un personnage qui est un personnage réel. Peut-être un nom d'emprunt, ça j'en sais rien, je pense que oui, je ne sais pas si c'est précisé ou pas, j'ai pas vérifié.
Je ne l'ai pas vu non plus.
Je ne crois pas, mais voilà, c'est une femme qui s'appelle Nathalie, qui est une très grosse fumeuse, et qu'il a connue à la piscine quand il était plus jeune.
Enfin, dont il était amoureux. C'est surtout ça.
Je ne sais pas si c'est de l'amour, en tout cas c'était clairement du fantasme, hein. Il y avait vraiment quelque
c'était
chose.
C'était la plus belle fille du village.
Voilà, donc il y avait un contact, et puis il la retrouve quelques années... beaucoup d'années après, un peu défraîchie, un peu décrépite, un peu précarisée aussi.
Prête à voter Marine Le Pen.
Et je dirais même présentant des arguments pour voter Marine Le Pen. Et donc, tout ça va s'enchevêtrer. Et donc, plutôt que de considérer cette relation qu'il a eue avec cette personne comme quelque chose qui peut endiguer son analyse, eh ben non, il plonge dedans et il en fait véritablement le sel, un des éléments salés, en tout cas, de son analyse. Et puis alors, il n'y a pas que Nathalie, il y a aussi Jean-François, qui est un ancien ami ou un ancien copain qu'il avait croisé dans ce village, avec qui il avait vécu. Il y a d'autres personnes qu'il connaissait.
Il y a
le maire du village qu'il connaissait forcément en tant qu'administré. Et puis voilà, ici, il revient en tant qu'analyste, c'est différent. Et puis, il y a le grand patron imprimeur. Donc, on a toute une suite de figures comme ça qui vont organiser le livre et qui sont proprement des figures qu'on peut nommer littéraire, c'est-à-dire il y a une part de fiction dont on ne sait pas très bien quelle elle est, mais c'est plutôt qu'une part de fiction, c'est une manière en fait d'organiser le langage dans le sein de cette analyse.
En fait, on y croit, hein. Je veux dire, moi, à aucun moment je n'ai pensé qu'il avait mis en scène les choses. Je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Après, évidemment, il nous raconte pas ça in extenso, donc il coupe, il agence, il fait de la littérature.
Oui, tout à fait.
Voilà, il y a des ellipses, il y a plein de choses. Bon. Parfois, ça paraît un peu décousu, mais à la fin, tout se rassemble. Et...
Oui, bah, pour donner peut-être une idée de ce caractère décousu, on peut peut-être lire un extrait. Alors, on va le lire à deux voix, hein, forcément.
C'est une première.
C'est une première, on va s'y essayer. Donc, c'est vraiment à deux voix. C'est comme ça qu'est le livre. Donc, il y a l'analyste, donc Éric Chauvier, qui parle. C'est lui qui commence, c'est moi qui vais débuter. Et puis, il y a Jean-François, dont on va insérer dans l'analyse d'Éric Chauvier quelques éléments des paroles et des interviews que cet analyste a rapportées. Durant 30 ans, Jean-François a géré le stock d'un magasin de prêt-à-porter rue de l'Hôtel de Ville. Ma mère nous y habillait, mon frère et moi. Il a pris sa retraite il y a un peu moins de 10 ans. Face au déclin des petits commerces, auxquels il demeure très attaché...
Pour les SAV ou pour avoir une pièce, il vaut mieux aller voir les petits commerces.
Quoique sur le mode de la défaite assumée...
En même temps, il n'y en a plus de petits commerces.
Il a proposé au principal édile de Saint-Yrieux une sorte de pis-aller.
J'ai parlé d'une idée au maire, une ville en Bourgogne, où le maire avait proposé de poser des décalcomanies sur les commerces vides.
Peu de temps après, à peine quelques heures à vrai dire, Jean-François a admis à ses proches, c'est ce qu'il m'a dit, que cette proposition était en réalité une illusion, une contradiction parfaite avec ce qu'il venait de dire.
Ouais, en fait, ça faisait une animation, un commerce virtuel déjà rien qu'à l'œil, je trouvais ça très intéressant.
Pour tout dire, un véritable cache-misère.
En fait, c'était un trompe-l'œil en quelque sorte. Il y avait une photo avec deux ou trois personnes qui achetaient du pain, des fruits.
Une suggestion désespérée.
Ça amenait peut-être quelque chose.
Pour conserver.
Un peu de vie.
Un peu de ce qui avait été.
Voilà, on comprend l'espèce de ping-pong qu'il y a entre l'analyse de l'anthropologue et les témoignages qu'il recueille. Et cette insertion rend parfois la lecture un peu difficile. Il faut s'y reprendre parfois deux fois, lire uniquement ce qui est en italique, enfin, c'est-à-dire les témoignages, et lire la partie plus théorique de l'enquête. Mais ça fonctionne super bien. En fait.
Ça fonctionne super bien. Et alors, il y a un présupposé derrière. Il y a quelque chose qui est vraiment fondamental. C'est que cette inscription dans la page, presque sur un même plan de la parole de l'analyste, de l'enquêteur en sciences sociales et de la personne qui l'interviewe, de sa matière première, ça montre tout simplement qu'il n'y a plus de surplomb de l'analyste.
Là, il est dedans. Il est tellement dedans qu'il s'en prend même plein la gueule à un certain moment.
Quoi. Et il le montre aussi. Et donc, c'est-à-dire, plutôt que de se servir de la parole de l'interviewé pour venir conforter une analyse qu'on plaquerait sur elle, eh bien non, c'est la parole de l'interviewé qui est la matière première et qui donc doit être insérée dans le récit sur un même plan visuel, finalement, intellectuel, de lecture, psychologique, on va dire, que la parole de l'analyste. Ce qui rend parfois la lecture peut-être un peu plus abrupte, mais c'est normal. Je dirais même plus, et c'est ça qui est intéressant, qui est peut-être plus fin encore dans le livre, c'est que ce qu'il montre par là, c'est que quand on vient avec un modèle à plaquer sur cette petite ville, et quand la parole de l'intervieweur ne sert plus que pour illustrer quelque part la parole qu'on prétendait tenir là-dessus, eh bien finalement on est toujours un surplomb, on ne change pas. L'analyste ne va pas changer sa vision. Tandis qu'au cours du livre, au cours de la petite ville, il y a quelques changements qui s'opèrent, en fait, chez Éric Chauvier. Et en fait, ces changements, c'est un peu tous les a priori qu'il pouvait avoir lui-même sur cette ville qu'il avait quittée, qu'il va modifier légèrement. Et donc, cela n'est rendu possible qu'à partir du moment où on prend vraiment en compte la parole de la personne que l'on interviewe pour illustrer soi-disant son propos.
Et le temps de l'enquête, le temps réel de l'enquête.
On n'a
pas l'impression qu'il y a repassé tant de temps que ça. C'est deux, trois personnes, comme vous l'avez dit. Mais on sent effectivement une évolution au regard des différentes rencontres qu'il fait et des rencontres dans lesquelles il s'implique fortement, puisqu'il y a au moins deux personnes dont il est question, une dont il a été amoureux, qu'il revoit, et une autre avec qui il a eu une aventure et qu'on évoque aussi, c'est Barbara, et qui est un véritable déclencheur. Enfin, on ne va pas tout raconter.
C'est vrai. Alors ça, c'est plus bref, justement, Barbara. Le fil conducteur, c'est finalement Nathalie. Pourquoi ? Je pense aussi parce qu'il s'est rendu compte au cours du processus de l'enquête que c'est peut-être elle qui collait le mieux à la petite ville, mais aussi à la complexité de la petite ville, parce que ça paraît peut-être un peu simple, presque même un cliché, on pourrait faire un cliché de cette petite ville, alors que c'est beaucoup plus complexe. Il y a plein d'éléments comme ça qui sont très intéressants dans son analyse de la petite ville, comme par exemple, à un moment, le maire de la ville et les autorités locales, et même la population, en vient à espérer l'ouverture d'un McDo ou d'une FNAC. Et il y a quelque chose de... Alors, ça arrive dans plein d'autres petites villes qu'on peut connaître, nous aussi. Il y a presque une réjouissance, une joie, alors que c'est une boîte qui va s'installer là, qui va servir à une chose, c'est à précariser encore un peu plus l'emploi, à apporter de la malbouffe. Et donc, il y a une espèce de... Il montre très bien là la complexité... Beaucoup plus que l'absurdité d'ailleurs. C'est absurde, certes, mais il montre la complexité des processus qui doivent se mettre à l'œuvre pour en venir à souhaiter finalement ce qui vient faire crever cette petite ville dans l'œuf. C'est quelque chose de très très fort. Ce personnage de Nathalie, qui est quelqu'un qui était une femme magnifique, qui l'est peut-être encore d'ailleurs, il y a un doute qu'elle essaie, il y a toujours quelque chose d'assez séduisant chez elle, et qui en arrive à dire « ben oui, je vais voter pour Marine Le Pen parce que c'est la seule à nous apporter des solutions », ou plutôt même pas, il n'y a pas de solution, mais je ne vois pas pourquoi je ne voterais pas pour elle finalement.
Oh, elle dit quand même qu'elle voterait peut-être pour Macron aussi, parce qu'il est mignon.
Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Alors bon, là, il y a aussi certaines paroles qui sont rapportées par Éric Chauvier, dont on peut très bien se dire qu'elles ont certainement été réelles, mais il les utilise aussi pour un petit... ça donne un petit coup de sel, un petit coup de drôle, il y a quand même une petite pique derrière.
Et c'est ce qui fait aussi que ce livre est plaisant à lire, qu'on a envie d'en savoir plus, surtout sur la ville, les gens, sur les maisons qui sont cachées par des haies, et puis à un moment on a balayé, on voit la maison derrière et on apprend. Il fait appel à l'histoire locale, il fait appel à quelques théories économiques et tout s'entremêle. Et finalement, c'est le genre de livre qu'on lit, on a passé un bon moment et on se sent plus intelligent aussi.
Oui, et puis on s'attache à ces personnages qui sont réels. Hein, ça, c'est quand même...
Et puis on a tous connu une Nathalie, une Barbara.
Voilà.
Non, mais c'est vrai, on s'identifie assez facilement. Si on n'est pas né dans la grande ville, je pense qu'on s'identifie assez facilement à ce livre. Bon, question de génération probablement aussi, mais c'est un constat terrible de ce qu'est devenu notre société.
Oui, évidemment. Et tout ça par le langage, parce que c'est aussi...
Ça marque aussi un peu la fin des Trente Glorieuses. Hein.
Clairement.
Ça signe l'enterrement des Trente Glorieuses.
Oui. Et ça va même chercher encore plus loin dans l'histoire du capital, entre guillemets, comme il le dit.
Oui, et des rapports sociaux aussi.
Oui,
hein,
et puis alors aussi...
Des rapports de classe, disons-le.
Une des rapports de classe, mais quand même quelque chose de très important chez Éric Chauvier, c'est jamais de l'anticapitalisme primaire. Il y a quand même quelque chose de très, très fort.
C'est pas un manuel du parti
nouveau
parti anticapitaliste ou de la France insoumise.
D'ailleurs, il est vert le livre, hein, c'est un petit livre.
C'est pas...
non, mais c'est important à dire, parce que c'est vrai que souvent maintenant, quand on dit rapport de classe, quand on dit que c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire du capital ou aux errements du capital ou à l'aboutissement du capital ou à la dérédiction du capital, etc., on a souvent tendance à penser de l'auteur qui s'y est collé comme une espèce de grand gourou, le point gauche levé, etc. Non, il y a vraiment une analyse.
Non, mais c'est un anthropologue.
C'est un anthropologue, c'est pas... Alors évidemment, il y a des convictions politiques derrière, certainement, mais c'est un travail d'anthropologie. Très particulier, certes, mais un travail d'anthropologie. Une chose que je voulais dire aussi, c'est l'importance du langage qu'il accorde. Alors, c'est pour ça que c'est une œuvre de littérature, mais c'est de la littérature aussi que l'anthropologie. C'est-à-dire que ne pas voir la force des mots, quelque part, c'est se défaire d'une grille d'analyse absolument essentielle au réel. Un exemple tout bête, dans le livre, on va parler, alors je ne sais, connais plus les noms, mais on va parler du maire, je pense que c'est le père Boulard, l'ancien maire, et on va parler de l'imprimeur.
Un ancien, qui est Morin.
Qui est le père, non, on l'appelle pas Morin, on l'appelle le père Morin. Et le fait qu'on appelle le grand patron de l'imprimerie du coin, le père Morin, et le grand patron politique de la ville, le père Boulard, ça en dit ce terme, ce langage-là...
Sur le paternalisme, justement.
Grand, on dit gros, sur le paternalisme, et donc sur la relation qu'une petite ville, que les administrés d'une petite ville peuvent avoir avec le monde économique et avec le monde politique. Si on ne prend pas en compte cet élément de langage-là, on passe à côté de choses vraiment essentielles. D'ailleurs, c'est un grand fan de Wittgenstein, hein, le grand philosophe de langage du XXe siècle, qui avait dit... ceci, les seules limites du monde sont celles du langage. Eh bien, l'œuvre d'Éric Chauvier, l'œuvre anthropologique, littéraire et anthropologique, les deux sont liées d'Éric Chauvier, elles sont vraiment dans ces limites-là.
Ça s'appelle La Petite Ville, c'est un livre de l'anthropologue Éric Chauvier, c'est paru aux éditions Amsterdam, et si vous êtes né dans une petite ville il y a, disons, entre 40 et 50 ans, et que vous n'y êtes pas retourné depuis longtemps, je pense que vous verrez dans ce livre une part de votre histoire. Merci Emmanuel.
Merci Alain.